Dans le camping, les soirées du lundi sont dignes de celles d'un samedi soir.
C'est à la France que fut confiée l'organisation du 10e rallye international de camping.
La zone la plus touchée, c'est celle du camping.
Radio Camping Paris.
C'est tout l'été, du lundi au jeudi, de 19h à 20h.
Hier, il y avait Beyoncé au Stade de France et c'est peu dire qu'elle nous aura tout fait. Drunk in Love, Halo, Bootylicious, Love on Top, Crazy in Love, mais aussi, bien sûr, Who Run the World, Single Ladies ou encore l'exceptionnel Flawless. Première tournée solo de la diva, ce Formation Tour qui a dégommé Paris hier était donc bien placé sous le signe du féminisme. Un féminisme qu'on peut certes contester, mais qui a au moins le mérite d'être visible. Avec Beyoncé, toutes les filles ont du pouvoir, ou pour jargonner un peu en mode gender studies, toutes les filles ont de l'agency. Le féminisme donc, mais pas que. Au début et à la fin du concert ont respectivement résonné Formation et Freedom, les deux titres les plus engagés du dernier album. Ils défendent en effet explicitement et radicalement la cause noire américaine dans des États-Unis tendus que les deux élections successives de Barack Obama n'auront pas suffi à post-racialiser. Alors bien sûr, ces deux tubes, ils ont des limites. Par exemple, ils érigent en spectacle des traumatismes afro-américains comme l'esclavage ou l'ouragan Katrina en 2005, dont les plaies toujours béantes ont surtout besoin d'être pensées avec un E pour précisément être pensées avec un A. Mais avec leurs gros sabots, Formation et Freedom sont surtout porteurs d'une mission capitale. Ils viennent en fait enrayer la belle machine à tubes blanchisée et bien huilée de l'industrie musicale occidentale en donnant une voix bruyante, audible par des millions, à une communauté à laquelle on a trop souvent répété qu'elle avait le droit de garder le silence. Qu'on se le dise donc une bonne fois pour toutes. À l'heure où noir et blanc, civils et flics s'entretuent de sang-froid entre Dallas et Baton Rouge, à l'heure où l'actrice noire américaine Leslie Jones, à l'affiche du remake féminin de Ghostbusters, est forcée de quitter Twitter sous la pression des insultes racistes, à l'heure où certains veulent faire disparaître le hashtag Black Lives Matter derrière un consensuel et blanc hashtag All Lives Matter, à l'heure aussi où, chez nous, un rappeur noir peut être privé de son droit de commémoration à Verdun, à l'heure enfin où les ministres de la justice, militant pour la reconnaissance des droits de tous et toutes, sont comparés à des singes, à l'heure de tout ça, des grosses machines comme Formation of Freedom ne sont pas seulement utiles, elles sont nécessaires. Ok, Radio Camping Paris, let's get information sur le 93.9 ou encore sur internet radiocampusparis.org. On est ensemble pour une heure depuis la terrasse péniche de Petit Bain, un lieu atypique et important de la vie parisienne dont il va être question tout au long de l'émission. Petit Bain, c'est à la fois un restaurant et une salle de concert triplée d'un toit végétal. C'est aussi une coopérative accessible aux personnes en situation de handicap où tout le monde peut venir danser, écouter, manger et jardiner dans la joie et la bonne humeur. Pour parler de leur programmation estivale, nous recevons Johannes Bourdon, le chargé de communication du lieu. En deuxième partie d'émission, nous irons à la rencontre des cuistots migrateurs avec l'un de ses fondateurs, Louis Jacot. Ce collectif accueille des chefs réfugiés de plein de nationalités différentes et nous évoquerons avec eux leur association avec Petit Bain, pour qui ils cuisinent, ainsi que l'action menée par le collectif pour aider des chefs déracinés à reconstruire leur vie professionnelle. Enfin, nous recevrons Alice Champion pour parler de la Grande Colo organisée par Petit Bain, un ensemble d'événements super stylés qui célèbre les 80 ans des congés payés jusqu'au 2 octobre. Au programme, exposition, atelier écolo ou encore croisière musicale. Et puis, chers auditeurs, chères auditrices, vous aurez également le plaisir d'entendre les 12 voix de Quentin et Flore qui vous raviront les oreilles et le cerveau avec des chroniques passionnantes. Mais tout ça, c'est seulement sur Radio Camping Paris, alors surtout, restez connectés.
Radio Camping Paris.
Alors, autour de moi, il y a la Seine, beaucoup de plantes de toutes sortes et de toutes les couleurs. C'est calme, c'est très beau. Pas très loin, on devine la BNF, le temple imposant du savoir, mais feuilles s'envolent, dans lesquelles les jeunes étudiants ont souvent très très peur de s'aventurer. Mais bon, enfin, pour l'instant, c'est les vacances, pas de journée en bibliothèque de prévu, plutôt une belle soirée en terrasse, en direct de la péniche de Petit Bain, restaurant, salle de concert, coopérative accessible à tous. Et pour parler du programme de cet été, nous recevons Johannes Bourdon, chargé de communication. Bonsoir.
Bonsoir.
Pour m'accompagner tout au long de l'émission, la douce et pétillante Anna, que je suis plus que ravie de retrouver. Bonsoir Anna.
Bonsoir.
Alors Johannes, tout d'abord quelques mots sur le projet. Petit Bain, c'est le résultat de la fusion de deux associations parisiennes, si j'ai bien compris, la Guinguette Pirate et le Bouquin Affamé. Comment est venue l'idée de cette association ?
En fait, avec le Bouquin Affamé, c'était à la base de Petit Bain, mais c'est plus vraiment d'actualité. Maintenant, c'est deux structures en fait, qui cohabitent. Une SIC, donc une société coopérative d'intérêt collectif, et une association qui s'appelle la Guinguette Pirate. Donc la SIC pour le côté plus commercial, donc ce qui est bar, programmation, etc., privatisation, et une association, la Guinguette Pirate, pour tout ce qui est social ou action culturelle sur le quartier, etc. Voilà.
D'accord, et Petit Bain, c'est aussi ce lieu hein, parfaitement parfait, j'ai envie de dire, cette péniche. Comment est venue cette idée de péniche ?
En fait, déjà, c'est pas une péniche.
C'est pas vraiment une péniche, j'avoue.
On y tient. En fait, non, parce que c'est un lieu qui a été construit en fait pour pouvoir accueillir des concerts et des gens et cette terrasse et tout ça. Et c'est surtout c'est l'attachement du directeur Ricardo Esteban au quai du 13e, car il a travaillé au bateau phare à la préfiguration, je crois, il y a 15 ans. La Guinguette Pirate aussi, qui a été un haut lieu de la scène indé au début des années 2000. Ensuite, en attendant de faire Petit Bain, ils ont fait le festival Sous la Plage. Et ensuite, Petit Bain. Donc c'est vraiment, je pense, ancré dans les gènes de Petit Bain, dès la base, même des anciennes expériences du directeur et de l'équipe.
Une sorte d'aboutissement.
Exactement.
Anna.
Oui, alors Petit Bain, c'est aussi un lieu pluriel. À la fois salle de concert, une terrasse restaurant et aussi un espace jardinage. Pourquoi avoir eu envie de mélanger ces trois espaces ?
Mélanger ces trois espaces ? Comment ça ?
Bah, faire cohabiter, ouais, du moins.
Salle de concert, terrasse.
Salle de concert, terrasse et espace de jardinage.
Bah, c'est pareil, ça a toujours été un lieu en fait, qui était destiné à la rencontre, à essayer de mélanger plusieurs publics tout en ayant un côté social, d'essayer d'initier les gens, etc. Donc là, par exemple, à l'écologie avec ce jardin urbain, on va dire. Et comment dire, oui, voilà, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout ce qu'on fait, l'action culturelle, etc., qui peut se trouver sur les trois niveaux. Donc là, par exemple, on va accueillir le groupe Grand Blanc pour un atelier avec les jeunes du quartier. Ensuite, il y a du club, donc qui n'est pas forcément la même chose. Mais en fait, c'est un peu la volonté que tous ces publics, tous ces gens-là se retrouvent dans un lieu protéiforme, j'ai envie de dire.
Oui, alors, vous avez aussi fêté récemment les 5 ans du lieu. Le lieu a-t-il beaucoup changé depuis sa création ?
Oui, beaucoup. Donc, qu'est-ce qui a pu changer ? Non, après, ça n'a pas complètement changé, mais par exemple, le club, ce n'est pas quelque chose qu'on faisait à la base. Après, je pense qu'il y a des choses, vu les intérêts économiques ou autres, qu'on change. Forcément, au début, on est idéaliste et après, il y a des choses qui évoluent. Mais par contre, la volonté de changer les choses, de montrer un monde meilleur, même, j'ai envie de dire, reste toujours.
D'accord. Alors, Petit Bain a aussi été conçu comme un lieu de partage, vous l'avez dit, aussi un lieu d'expérimentation, si j'ai bien compris. Mais d'expérimentation de quoi ? J'ai vu, entre autres, sur votre site, que vous expérimentiez beaucoup autour du végétal. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Du coup, c'est une personne de Montreuil qui est venue installer ce jardin, qui va être là tout l'été. Donc voilà, c'est une volonté d'apporter de la verdure sur le territoire urbain, en fait, tout simplement, et sur des lieux qui ne sont pas forcément adaptés à la base.
Et c'est que cet été ?
Non, ça va rester, mais on a toujours eu, même l'année dernière, c'était pas la même chose, mais on a toujours eu du végétal sur la terrasse. Avec les baignoires aussi, que vous avez pu voir en bas, qui avant, les baignoires végétales qui étaient avant sur la terrasse aussi.
Et alors, demain, vous proposez un concert qui s'appelle In Fenouille We Trust, où on pourra écouter de la musique organique. Alors, je voulais savoir, qu'est-ce que c'est que de la musique organique ?
En fait, c'est ce soir.
Ah, c'est ce soir.
Mais alors, du coup, non, je ne sais pas trop ce qu'ils veulent dire par musique organique, mais vous pouvez leur demander, c'est les deux DJ qui sont là-bas.
D'accord, alors c'est pas grave, le lieu il est aussi politique, il est assez militant puisque vous venez en aide aussi aux personnes qui sont souvent malgré elles assez éloignées du monde du travail, notamment du fait d'un handicap ou parce qu'elles sont malentendantes. Vous êtes d'ailleurs conventionné entreprise d'insertion par l'économie, qu'est-ce que ça signifie ça concrètement ?
En fait, dans ce que vous soulevez, il y a deux choses différentes. En fait, il y a les capacités d'accueil de Petit Bain. Comme vous l'avez dit, on peut accueillir des personnes handicapées, etc. Mais pas que des gens qui ont des problèmes physiques. Par exemple, on a des bandes magnétiques qui permettent aux sourds d'entendre la musique à l'intérieur de la salle de concert. Et après, pour tout ce qui concerne la réinsertion, c'est pour des gens qui ont été éloignés du monde du travail. Donc ça peut passer par la cuisine, mais aussi par la régie, tout ce qui est pour le concert, technicien, etc. Le plateau, donc voilà, c'est histoire de rapprocher avec nos compétences, qui sont donc le spectacle, la restauration, le bar, des gens éloignés du milieu du travail.
D'accord. Et en même temps, vous embauchez des gens en situation de handicap ou pas du tout, et j'ai mal compris ?
Non, c'est des personnes éloignées de l'emploi.
D'accord, ok. Ok.
Anna ? Oui, alors, quelques mots sur le programme de cet été. À part la grande colo, dont on parlera tout à l'heure, vous organisez également de nombreux concerts de tous les horizons. Vous pouvez nous en dire un mot ?
Alors, en fait, il y a un fil rouge qu'on fait depuis 4 ans, en partenariat avec Bercy Village qui se retrouve juste de l'autre côté. C'est qu'en fait les groupes, alors avant c'était l'inverse, les groupes jouaient à Bercy Village et le lendemain à Petit Bain, maintenant ils jouent à Petit Bain et le lendemain à Bercy Village. Et donc c'est une programmation depuis 4 ans qui est plutôt world. Donc voilà, c'est tous les mercredis ici, c'est gratuit, et le jeudi à Bercy Village.
D'accord, et j'ai vu justement cette collaboration avec Bercy Village qui s'appelle Il suffit de traverser le pont, c'est ça, ou quelque chose?
Ça s'appelle exactement Musique en terrasse,
ouais.
De leur côté.
Il n'y a pas une histoire de pont?
Et si, nous on a mis un sous-titre, il suffit de passer d'accord. le pont parce qu'il y a juste un pont à traverser pour voir les concerts.
Et du coup, elle date de quand cette collaboration?
Ça fait 4 ans.
4 ans, d'accord. Et ça marche bien?
Oui, très très bien.
Alors vous avez dit que c'était gratuit, il n'y a que des concerts gratuits?
Dans le cadre de Bercy Village ou en général?
Non, en général.
Alors l'été, c'est quasiment que du gratuit. C'est tout le temps sur la terrasse, soit du DJ set, soit du live, soit des ateliers, enfin, ça peut être plein de choses.
D'accord, ok. Anna?
Oui, alors comment on se rend à ces concerts et à ces ateliers? C'est toujours sur la péniche ou, et où est-ce qu'on
la
peut
péniche, aller? Qui d'ailleurs n'est pas une péniche,
oui.
C'est une barge.
Ah, sur la barge.
Est-ce que vous sollicitez d'autres lieux ou est-ce que c'est toujours ici?
Non, pas forcément, parce qu'on fait beaucoup dehors les murs en fait, bah, notamment via, après Alice en parlera mieux, via la Grande Colo. On a organisé des concerts plusieurs fois dans une chapelle dans le 8e arrondissement, l'Archipel, je ne sais pas si vous connaissez. Et on a organisé des concerts au Supersonic, à plein d'endroits. Enfin, je pense que Petit Bain n'est pas seulement un lieu, mais aussi une entité qui fait énormément de choses en fait.
Et alors, quelle est la soirée Petit Bain à ne surtout pas louper cet été?
Il y en a plusieurs, mais si je devais en garder une, ce serait le 20 août, Jello Biafra, qui est le chanteur des Dead Kennedys, le mythique groupe de punk américain, qui est très très engagé. Et c'est vraiment, on va dire que c'est assez rare qu'ils viennent et ça va être un événement.
Merci beaucoup Johannes d'avoir été avec nous. On retrouve bien sûr toutes les infos sur votre site internet et sur la page Facebook de l'émission. Et on se retrouve après une petite pause musicale.
Maracas, I go chick chicky boom, chick chicky boom. Yes, sir, I'm Cuban Pete. I'm the craze of my native street. When I start to dance, everything goes chick chicky boom, chick chicky boom. The senoritas they sing and how they swing with their ombrero. It's very nice, so full of fight. And when they're dancing, they bring a happy ring to that I boom, chick, chicky, boom.
He's a really modest guy, although he's the hottest guy in Havana, in Havana.
See, senorita, I know that you would like a chicky boom chick. It's very nice, so full of spice.
I'll place my hand on your hip, and if you will just give me your hand,
then we shall try, just you and I. And I did you to chick chicky boom, chick chicky boom, chick chicky boom.
C'était
Cuban Pete.
Cuban Pete, merci Charlène. Alors, à Petit Bain, vous pouvez aussi déguster des plats de plein d'endroits du monde. Et ces plats, ils sont concoctés par les chefs des Cuistots Migrateurs, une entreprise sociale qui accueille des cuisiniers réfugiés avec pour projet de les aider à se réinsérer dans la vie professionnelle. Donc, pour parler de toutes ces saveurs inédites et militantes, nous accueillons l'un des fondateurs de l'entreprise, Louis Jacot. Bonsoir.
Bonsoir, merci de m'accueillir.
Toujours avec moi, Anna. Anna, ça va toujours?
Oui, ça va toujours.
Alors, tout d'abord, un mot donc sur les Cuistots Migrateurs. Quand et comment sont-ils nés?
Alors on s'est lancé en février 2016, donc j'ai cofondé l'entreprise avec Sébastien Prunier. C'est né de plusieurs volontés, la volonté d'apporter quelque chose de neuf en termes de cuisine du monde à Paris, apporter de la diversité en faisant découvrir des cuisines qui ne sont pas forcément bien représentées, la cuisine tchétchène par exemple, apporter de l'authenticité aussi en faisant toujours travailler des chefs d'un pays sur la cuisine avec laquelle ils ont grandi et ils ont vécu avant de venir en France. Il y avait l'ambition également de changer le regard sur les migrations et les réfugiés, montrer autre chose que la jungle de Calais, Lampedusa et les migrants sur les routes en Hongrie. Et on pense que la cuisine est un super média pour faire ça, pour réunir les gens et montrer que ces réfugiés qui sont en France ont énormément de compétences, un savoir-faire qui ne demande qu'à être valorisé.
Oui, il s'agissait aussi de leur rendre en fait une individualité à ces cuisiniers en valorisant justement des savoir-faire.
C'est exactement ça. Contrairement à d'autres traiteurs solidaires, on s'est vraiment dit, on va aller voir Fariza qui est tchétchène, on va lui dire fais ta cuisine, fais la cuisine de ton pays. Rachid fait la cuisine iranienne et uniquement iranienne. Et leur redonner par là une sorte de dignité en valorisant leur tradition, leur savoir-faire.
Alors vous avez parlé de traiteurs solidaires, qu'est-ce que c'est ?
Solidaire dans la mesure où on fait travailler des gens qui sont en difficulté, qui sont éloignés de l'emploi, qui ont beaucoup souffert, donc qui sont en France depuis pour certains plusieurs années sans avoir jamais travaillé, qui sont mal intégrés, qui parlent parfois pas la langue. Donc solidaire dans cette mesure-là, on pense que grâce à nous, on les met au contact de Français, on les fait travailler, on leur donne une intégration, on les aide à s'intégrer socio-professionnellement.
Alors, vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous avez un statut donc d'entreprise, mais est-ce que toutes les entreprises peuvent recruter des réfugiés ?
Alors, les réfugiés statutaires, c'est-à-dire les réfugiés qui ont fait une demande d'asile et qui se sont vus accorder le droit d'asile. Et dans ce cas-là, ces personnes-là, donc ces réfugiés, ont un permis de séjour de 10 ans, qui est toujours renouvelé, et par là même un permis de travail, donc qui permet à n'importe quelle entreprise d'en les embaucher comme n'importe quel Français.
Et j'ai vu aussi que vous étiez une entreprise sociale, et je me demandais, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise sociale ?
Pour moi, une entreprise sociale, c'est une entreprise qui ne cherche pas simplement à faire de l'argent, pour parler trivialement, mais qui a un autre but. Et notre but, c'est à la fois, d'aider à l'intégration et puis de favoriser un échange interculturel.
Vous nous avez parlé de cuisine iranienne, de cuisine tchétchène. Comment est-ce que vous organisez un peu le roulement entre les différentes nationalités ? Est-ce qu'il y a quelque chose de saisonnier ? Est-ce que c'est en fonction des réfugiés des chefs que vous accueillez progressivement ? Comment est-ce que tout ça s'organise ? Est-ce que c'est thématique ?
Alors ici à Petit Bain, on a fait le choix de proposer de la cuisine syrienne parce qu'il y a beaucoup d'entrées froides, de mezzé qui sont parfaits pour l'été, parfaits pour venir ici sur la terrasse du Petit Bain, prendre une bière et déguster quelques spécialités syriennes. Donc là, on a fait le choix vraiment de faire de la cuisine syrienne. Autrement, ça dépend un petit peu de l'événement. Ça dépend ce que les clients nous demandent. On a fait des buffets où on nous demande des petites bouchées. Donc là, un curry indien ou sri lankais, c'est pas forcément évident. D'autres fois, on nous demande un menu complet avec des plats chauds. Et là, on va pouvoir proposer justement une viande en sauce iranienne. Donc c'est un petit peu en fonction de ce qu'on nous demande. On essaye de trouver la meilleure manière de répondre à la demande du client et en même temps de faire un roulement entre nos cuistots pour que tout le monde ait une chance de participer.
Alors, ces chefs, ces cuisiniers, qui sont-ils ? J'ai compris que c'était des réfugiés de guerre, mais pas seulement.
Alors, on travaille que avec des réfugiés. Après, ils ont des parcours très différents. Certains sont depuis plusieurs années en France, certains viennent d'arriver. Et même en termes de parcours en cuisine, c'est très varié. On a travaillé avec un chef syrien qui animait 4 émissions de télé en Syrie, qui avait une chaîne avec 18 points de vente dans plusieurs pays du Moyen-Orient. On a Faik, un autre syrien qui ne parle pas la langue, qui a fait des petits boulots en Syrie. On a Fariza Tchétchène qui a travaillé avec dans le petit resto familial de sa maman et avec sa grand-mère. Donc ils ont des parcours très différents. Après, ils ont tous à cœur de vraiment faire découvrir leur cuisine, ils sont compétents, ils sont passionnés et ils sont super.
Et vous travaillez que avec des chefs confirmés ?
Non, encore une fois, on essaie de trouver quand même des chefs qui ont un minimum de compétences puisqu'on nous demande quand même des buffets régulièrement pour plus de 100 personnes. Donc si on veut assurer une qualité puis une homogénéité entre nos différents événements, on essaie de trouver des gens qui ont quand même un minimum de compétences, mais c'est pas c'est pas forcément des gens qui géraient un restaurant dans leur pays. Voilà, on essaye nous-mêmes de les professionnaliser au fur et à mesure de nos événements.
Alors du coup, comment ça se passe ces démarches professionnalisantes?
Bah, c'est être avec eux en cuisine. Moi, je suis passionné de cuisine. J'ai fait un CAP cuisine. J'ai fait un stage chez Spring, restaurant Lionel Rose à Paris. Enfin, c'est vraiment mon truc. Et donc, je suis avec eux pour essayer de voir, discuter, apprendre d'eux, et puis aussi leur transmettre des techniques, d'organisation au quotidien en cuisine. Donc, ça va venir. On aimerait bien aller plus loin, peut-être se rapprocher de cuisine de mode d'emploi ou d'initiatives comme ça qui pourraient nous aider à mieux encore les professionnaliser. Mais il y a beaucoup de choses en ce moment, donc ça viendra.
Et vous travaillez avec d'autres associations qui aident à l'insertion des réfugiés. Je pense notamment aux problèmes que pourrait poser la barrière de la langue, par exemple. Est-ce que vous travaillez avec des professeurs de français ou...
Pour l'instant, on travaille avec des chefs qui parlent soit anglais, soit français suffisamment bien. Donc on arrive très bien à avancer comme ça. Effectivement, on aimerait bien, c'est encore une fois, on a beaucoup de choses, ça va très vite. Et on n'a pas eu le temps de mettre en place, mais il y a une volonté effectivement, si on veut que l'intégration soit totale, de les accompagner au niveau professionnel et au niveau plutôt culturel. Donc là, il y a plein d'associations comme Thor par exemple qui pourraient nous aider.
Alors oui, vous mettez en avant du coup des recettes et des pratiques culinaires traditionnelles des pays d'où viennent les chefs. Mais est-ce qu'il est facile de trouver tous les ingrédients en France pour faire sa cuisine comme à la maison en Syrie, Tchétchénie ou Sri Lanka ?
On a la chance à Paris d'avoir quand même un réseau de petites épiceries du monde qui ont beaucoup de choses à proposer, il faut les connaître. C'est un peu qu'ils nous disent, moi j'ai besoin de ça, je sais où c'est. Donc au sein de leur communauté, ou alors un ami allé dans le pays va rapporter quelque chose. Donc on arrive jusqu'à présent, on arrive à trouver à peu près tout ce qu'on veut. Et on est content parce que effectivement dans le projet, il y a vraiment cette recherche d'authenticité. Proposer des plats un peu comme si les gens voyageaient dans le pays, et jusqu'à présent on a réussi à le faire.
Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait une perspective d'insertion dans votre association. Comment ça se passe quand les chefs partent? Est-ce que vous arrivez facilement à trouver d'autres réfugiés qui aient des compétences culinaires pour les remplacer? Est-ce que votre but c'est qu'ils restent le plus longtemps possible, ou au contraire qu'ils restent le moins longtemps possible, c'est-à-dire qu'ils vont rapidement arriver à s'intégrer et à trouver autre chose?
Alors pour l'instant, ils restent tous et sont même demandeurs de travail. Donc on espère que le niveau d'activité sera vite suffisant pour pouvoir proposer plus d'emplois pérennes. C'est quand même difficile d'en trouver pour le coup. On s'est rapproché de France Terre d'Asile, de Singa, Action Emploi Réfugiés, qui en contact et qui nous envoie régulièrement des profils qu'on rencontre, qu'on teste. Ça, c'est un travail vraiment qui est long. On a quand même envie de les garder. On est heureux de travailler avec eux, il y a une super ambiance, donc si on peut les garder longtemps, c'est super. Effectivement, la question se posera un jour est-ce qu'on pourra parler encore de chefs réfugiés quand ils seront avec nous depuis un an, qu'ils seront intégrés. C'est une question qu'on se pose maintenant. Je sais pas, on verra où l'avenir nous mène, mais c'est une excellente question en effet.
Alors, pour revenir un peu au lieu sur lequel on se trouve, on a vu que vous travaillez en collaboration avec Petit Bain. Comment elle s'est mise en place, cette collaboration?
Alors, on est venu voir le Petit Bain, je pense que c'était en mars, je ne dis pas de bêtises.
Donc c'est tout récent.
Ouais, c'est très récent, avec la volonté d'en savoir plus sur ce que t'es une entreprise d'insertion, parce que comme l'a exposé Johannes, c'est une entreprise d'insertion. Et en fait, on a très vite parlé de cuisine et on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire ensemble. Petit Bain pour qu'ils puissent proposer quelque chose de neuf, de différent, d'original. Et nous, c'était une super opportunité pour cuisiner ici, faire découvrir un public qui est extrêmement varié d'un concert à l'autre, la cuisine syrienne. On s'est dit on va travailler ensemble, c'est super. Et puis c'est cohérent, quoi. Le Petit Bain, c'est beaucoup de musique indépendante, musique du monde, c'est aussi une entreprise sociale d'insertion. Donc on a un petit peu la même ADN, donc c'était logique de faire quelque chose. Et donc on a commencé à travailler ensemble le 3 mai. Voilà, donc jusqu'à fin septembre, on sera tous les soirs ici.
Et vous proposez qu'un type de cuisine ici, c'est ça?
Alors on propose du mardi au samedi soir un type de cuisine, effectivement de la cuisine syrienne, donc avec Mouraouia et Faek qui viennent de Syrie. À part ça, on a mis en place des brunchs le dimanche. Pour l'instant, on a fait un brunch syrien, un brunch indien, et dimanche, on fait un brunch tchétchène avec Fariza. Il y a la volonté de temps en temps de mettre en valeur d'autres cuisines à travers des événements plus ponctuels, comme des brunchs ou alors comme des soirées. On n'a pas fait encore, mais c'est un projet c'est qui pourrait se mettre en place.
D'accord. Ce serait une soirée quoi, par exemple?
Bah, on pourrait faire une soirée iranienne avec des grillades. Ça serait, c'est quelque chose que ça j'aimerais beaucoup super. Faire.
Vous proposez aussi un service traiteur. Comment il fonctionne, ce service traiteur?
Alors, il faudrait que je mette à jour le site un petit peu pour faire un module de commande digne de ce nom. Allez, voilà, on a beaucoup de demandes parce qu'on a une offre qui est un petit peu différente des petits fours et canapés. Donc, souvent, on nous appelle et on construit avec le client. On a un petit peu de formule, on va dire. On aime bien proposer, garder des plats à partager parce qu'on trouve que ça va bien avec le type de cuisine qu'on fait. Après, on nous demande aussi parfois des petits canapés, donc on s'adapte.
Et ça peut être, vous avez mentionné tout à l'heure que vous faisiez des repas pour une centaine de personnes. C'est forcément des grosses, grosses commandes comme ça, ou ça peut être un couple ou une bande de potes?
Alors, on aimerait bien, mais on est encore un petit peu jeune pour pouvoir faire des petites commandes comme ça pour une petite soirée. J'espère pouvoir le faire après l'été. Jusqu'à présent, on commence autour de 30-35 personnes. Pour nous, c'est intéressant.
D'accord, donc c'est vraiment pour des gros événements.
Voilà, des plus gros événements. Entreprises et particuliers d'ailleurs. Hein. On a des gens qui nous ont demandé des buffets de mariage, Pax, anniversaire. Donc voilà, on a tout type d'événements, mais il faut un nombre suffisant de personnes.
J'imagine aussi que vous avez croisé, vous l'avez mentionné, hein, beaucoup de profils différents. Est-ce qu'il y a une de ces rencontres qui vous a particulièrement touché? C'est toujours une question un peu délicate, je sais.
Ça m'a touché, je pense que... alors moi je parle très peu avec les réfugiés de leur parcours personnel, ça m'intéresse pas, et puis c'est douloureux toujours, pour eux, donc c'est pas le but du jeu. Mais Fariza m'a beaucoup touché, Fariza qui est notre cuisinière tchétchène, qui était là qui est en France depuis 2-3 ans, et qui m'a dit vraiment avec les larmes dans les yeux que j'étais le premier français qui s'intéressait à sa cuisine. Et ça m'a fait un peu bizarre. Quoi, ouais, voilà.
Alors du coup c'est quoi la cuisine tchétchène?
C'est un mélange d'influences slaves, donc on retrouve des plats qu'on pourrait retrouver dans la cuisine russe, et d'Asie centrale, voire de Turquie. Par exemple, ils font des mante, qui sont des raviolis au bœuf, et on dit mante aussi en turc, et c'est la même chose.
Et dans tous les plats que vous avez découverts, vous avez eu un coup de cœur? Une chose exceptionnelle qu'il faudrait goûter avant de mourir?
Il y a beaucoup de choses exceptionnelles dans chaque cuisine. Je pense que le coup de cœur, et d'ailleurs qu'on peut retrouver au Petit Bain, sera le Moimara, qui est un caviar de poivrons rouges à la grenade et aux noix.
Ça a vraiment l'air super.
Oui, venez.
Anna, Flore, une question pour terminer? Non, du coup, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Louis Jacquot. On retrouve donc toutes les infos sur l'entreprise, sur votre site internet, lescuistesmigrateurs.com, si je ne me trompe pas.
C'est ça, sur notre page Facebook.
Et sur la page Facebook. Merci beaucoup. On se retrouve après une nouvelle petite page de musique.
Merci beaucoup.
We do the same like you. We do, we do.
c'était We Do We Do de The Monks.
Radio Camping Paris. C'est tout l'été, du lundi au jeudi, de 19h à 20h sur le 93.9.
Et tout de suite, la parole est à Quentin qui va nous parler d'un sujet de saison, l'impact des tubes de l'été sur notre cerveau.
Oui, bonjour Maureen, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler donc des tubes de l'été, ces chansons qu'on nous sert en boucle tous les ans sur les radios pendant 3 ans. Alors qui sont-ils? Pourquoi les tubes de l'été, ça marche? Qu'est-ce qui fait qu'on a parfois envie de les écouter en boucle dès que le soleil montre ses rayons? Nous allons tenter d'apporter des éléments de réponse, mais d'abord, on va faire un saut dans le temps. Écoutons donc les tubes de l'été à travers l'histoire, un florilège réalisé par Charlène.
Et j'entends siffler le temps.
Et j'ai crié, crié.
Very superstitious.
On dirait le suivi.
Ready and room at the hotel
California.
They can feel it all.
Un truc qui me colle encore au cœur et au cœur.
Alors très modestement, puisque je n'ai pu éviter ce qui arrive ce soir, je vous embrasse tous et...
Alors qu'est-ce que tous ces titres ont en commun? Visiblement pas grand-chose, certains sont qualitativement extraordinaires, on l'a entendu, et encore aujourd'hui on admire leur mixage, leurs arrangements, et d'autres par contre sont simplement un peu beaufs et dépassés. Oui, voilà. Alors leur point commun, c'est qu'ils ont eu leur heure de gloire pendant les mois de juin, juillet et août, sur les radios musicales privées, dans les boîtes de nuit, partout résonnaient leurs accords plus ou moins mélodieux. Mais pourquoi un tube de l'été, ça marche comme ça? La mode ces dernières années, c'est l'électro-tropical, la trop, comme on dit. Les sonorités de ces titres nous rappellent les Caraïbes, les îles paradisiaques. Je pense que si on devait donner une couleur à ce son, ce serait du bleu clair comme la barrière de corail, soyons fous. On entend des xylophones, des maracas, le sable chaud. Notre cerveau fait donc l'amalgame entre son et image, sentiment, ressenti. Le soleil et la chaleur aidant, on a tous envie d'écouter ça en boucle pour oublier qu'en vérité on est coincé à Paris, dans le métro sombre et humide. C'est donc là une première notion importante, on parle de psychoacoustique, c'est l'impact des sons sur notre cerveau, simplement. La psychoacoustique par contre, ça peut aller encore plus loin, alors accrochez-vous. Pour parler des tubes de l'été, il faut parler mixage et ce qu'on appelle la dynamique. Alors qu'est-ce que c'est donc que la dynamique? Eh bien c'est l'écart entre les fréquences les plus graves et les fréquences les plus aiguës. Autrement dit, quel est le son le plus grave et quel est le son le plus aigu? Quand on compresse un son, on réduit sa dynamique. On réduit l'écart entre le son le plus grave et le son le plus aigu. Le son paraît plus punchy, plus présent, il arrive directement au premier plan sonore. Un son non compressé, c'est ça. Alors de toute façon, la radio, tout est un peu compressé, mais on s'en rend compte quand même, parce qu'un son compressé, c'est plutôt ça. Et bien sûr, les pros en la matière, c'est...
Suite à un incident technique, nous interrompons vos programmes. Ils reprendront dans quelques minutes. Merci de votre compréhension.
Voilà, donc les ingénieurs du son qui travaillent sur les tubes sont les meilleurs au monde. Ils connaissent évidemment les notions de psychoacoustique. On vient de parler de la dynamique d'un son. Il va falloir maintenant étudier la macro-dynamique d'un morceau, c'est-à-dire l'évolution au sein même d'une chanson du traitement de la dynamique. Et on va illustrer ça avec un exemple un peu anecdotique de Britney Spears. On va étudier évidemment Toxic. On va écouter deux extraits. Vous allez tendre l'oreille et vous rendre compte comment on joue sur la dynamique pour créer une sorte de cycle dans le morceau. Dans l'extrait qui va suivre, on sort du premier couplet, on arrive sur le refrain. Écoutez bien ce qui se passe juste avant. On a tout bonnement énormément compressé le petit riff de guitare, vous l'avez entendu, pour mieux libérer l'oreille sur le refrain. Quand on arrive sur ce dernier, l'oreille est heureuse comme tout, elle est sollicitée à 100%. Juste après une petite frustration, le bonheur n'en est que décuplé. Écoutons maintenant la fin du morceau. On est ici, juste après le deuxième refrain, on arrive sur un bridge un peu bizarre qui annonce le grand final.
Do,
Vous l'avez entendu, le bridge avant le final est ultra compressé, on a presque l'impression d'être au téléphone. Alors là c'est limite, bon, anecdotique comme je disais plus haut, on compresse à mort avant de lâcher tout sur le dernier refrain, on frustre l'auditeur avant de lui libérer l'oreille et on observe que juste après le final, à la fin, tout à la fin du morceau, on a encore un petit motif compressé afin de finir encore sur de la frustration. Mais alors qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on a envie de revivre le moment de libération, de joie, de plaisir qu'on a vécu à chaque fois que Britney nous lâche son toxique. Alors on appuie sur replay encore et encore et encore. C'est exactement le même fonctionnement que les drops en boîte de nuit, soudainement on fait disparaître le kick gras et lourd, on se demande alors ce qu'il manque, un truc essentiel semble avoir disparu, et on va le faire revenir d'un coup, et là le cerveau lâche la dopamine, le bonheur est immense, on saute, ça vibre dans tout le corps, on se dépense, on a chaud, on a soif, et du coup on consomme et on achète son vodka Red Bull coupé à l'eau à 20 euros sans hésiter. Je m'étais pourtant promis de jamais revenir à la Wanderlust. Alors oui, c'est bien beau, mais quel rapport avec les tubes de l'été ? Eh bien, c'est la même chose. Via le mixage, on fait passer des messages à votre cerveau qui redemande d'écouter tout ça en boucle encore et encore. Un dernier questionnement serait celui de la qualité des sons. Faut-il, pour toucher un grand public, réaliser des morceaux moyens qui rentrent dans la norme ? Le grand débat pour faire populaire, faites de la merde. Alors oui et non, car l'été dernier, on a eu droit à ça. On a eu droit à ça. Donc voilà, donc je voulais vous parler de Linon de Major Lazer, mais c'est pas grave, je pense qu'on va le retrouver. Donc voilà, donc Linon de Major Lazer, ça a été une grande avancée dans les tubes de l'été à mon sens. Le traitement des voix y est révolutionnaire, on n'a jamais entendu ça sur des tubes grand public. La voix est déformée, envoyée dans des réverbes, dans tous les sens. Si on isole certains sons, on pourrait se croire dans les couloirs du GRM. Et malgré tout, tout s'accorde vraiment parfaitement. Donc pour moi, il y a deux types d'artistes. Il y a deux types d'artistes, donc... les Strokes ou les Glass Animals, Jungle, qui sont un peu à l'avant-garde, qui ont un public plus petit, mais qui osent des choses. Major Lazer, donc. Major Lazer en faisait partie de ces groupes à l'avant-garde et ils ont réussi à trouver le juste équilibre entre initiative avant-gardiste et sonorité grand public. Une petite anecdote sur Major Lazer, Rihanna a refusé ce titre de chanter dessus pour laisser la place à Mo parce qu'elle pensait que ce serait beaucoup trop ambitieux et que ça marcherait jamais. Alors Rihanna, non, pour faire YouTube de l'été, il ne faut pas seulement faire chanter les Caraïbes, il faut peut-être en avoir un peu dans le pantalon et tenter des choses inédites.
Merci Quentin pour cette chronique vraiment passionnante et éclairante à plus d'un titre.
Cause I got you holding on to cité, ils ne comprendront jamais. Chacun son temps,
on n'est pas intelligent,
on n'est pas intelligent,
on ne pense qu'à l'argent,
on ne pense qu'à l'argent,
mais comment leur expliquer,
on n'en a jamais assez,
ils ne comprendront jamais.
C'est un peu vrai, mais faut rien exagérer, ils ne comprendront jamais. Nous on est dans le vent, nous on est dans le vent, dans le vent, dans le vent. À chacun son temps,
on ne vit que pour l'amour,
on ne vit que pour l'amour.
Le travail pèse lourd,
le travail pèse lourd,
et ils ont des airs de saints. N'en pense pas moi,
à notre âge ils sont aimés.
On a d'abord entendu Whitney et ensuite Pierre Lalonde.
Radio Camping Paris. C'est tout l'été, du lundi au jeudi, de 19h à 20h sur le 93.9.
Si vous êtes coincé à Paris tout l'été et que vous êtes quand même en quête d'un truc qui vous donnera l'impression d'être en vacances, ne cherchez plus. La solution est là ce soir avec nous dans Radio Camping Paris, puisque nous allons maintenant parler de la Grande Colo, organisée par Petit Bain, un ensemble d'événements culturels qui célèbrent les 80 ans des congés payés dans la convivialité, et ce jusqu'au 2 octobre. Pour nous parler de cette Grande Colo, Alice Champion, l'une des organisatrices, bonsoir.
Bonsoir.
Et puis toujours à mes côtés, en direct de la péniche, qui n'est pas une péniche, qui est une barge de Petit Bain, Anna, ça va Anna ?
Ouais.
Et également Flore. Alors, d'abord, pourquoi ce nom, la Grande Colo ?
Pourquoi ce nom ? Pour éviter d'être trop dans le manifeste politique, pour éviter de parler uniquement d'événements qui nous ferait penser à des réunions avec du contenu un petit peu fatigant et puis des choses qui sont pas forcément accessibles à tous les publics. Et l'idée, c'est de s'adresser à tous les publics et de reparler des colonies de vacances, parce que les colonies de vacances, c'est pas casse-pied comme on l'imagine. Et justement, qu'est-ce que c'est les colonies de vacances aujourd'hui en 2016, 80 ans après l'instauration des congés payés par le Front Populaire?
Oui, d'ailleurs, vous proposez donc de nombreuses activités à la Grande Colo pour célébrer les 80 ans des congés payés dans un esprit convivial et populaire. Pourquoi avoir choisi un tel format pour rendre hommage à la lutte de 1936 ?
Alors, rendre hommage directement à la lutte de 1936, c'était assez compliqué parce que le risque, c'est d'idéaliser une période qui est une période très complexe, mais qui a vu de très grands changements et de très grandes innovations sociales. Et c'est ça qui nous intéressait, c'était effectivement de se concentrer sur le positif et de se concentrer sur des événements qui touchent au quotidien, aujourd'hui, de tous, puisque les congés payés, sans le Front Populaire et sans cette loi promulguée au printemps 1936, on n'en aurait pas, ou pas vraiment, ou très peu. Et ce qui est intéressant aussi dans le fait de travailler uniquement sur des événements qui sont des événements de tourisme, des événements de loisirs, des événements culturels, c'est d'aller chercher des publics qui ne pensent pas 1936, qui ne pensent pas Front Populaire, qui ne pensent pas forcément lutte sociale, et de leur parler de ça, mais sans leur en parler et sans l'évoquer de manière forcée, mais simplement en le mentionnant et en faisant peut-être déclencher une petite étincelle chez ces publics qui sont là uniquement pour profiter de leur été. Et heureusement, c'est important qu'on arrive encore aujourd'hui à profiter de notre été.
Alors justement, vous parlez de vouloir se concentrer sur le positif. Est-ce qu'il y a une volonté, une forme d'injonction au public, pas forcément d'avoir une conscience politique, mais de savoir, comme vous le dites, que les congés payés viennent de 36, viennent de la gauche, viennent du lutte politique, et de faire en sorte que le grand public ait une conscience plus accrue de ce que les vacances signifient vraiment en termes politiques et en termes économiques, un contexte aujourd'hui, 2016, qui est quand même celui qu'on connaît.
On l'a, j'en ris, mais il vaut mieux parfois un petit peu. On a complètement oublié ça, et effectivement, aujourd'hui c'est un acquis, et c'est un acquis qui est en train d'être mis en question de manière dramatique. Voilà. Il est important de le rappeler, premièrement. Et puis aussi, injonction, je ne sais pas, mais il est vrai qu'on en parle quand même, on en parle beaucoup. Mais injonction, pourquoi pas, allons-y,
incitation,
allons jusqu'au bout.
Sinon, mais...
on en parle beaucoup, on voit des hors-séries qui paraissent sur les luttes de 36, le Front Populaire. Peut-être que justement, il y a une forme de travail de mémoire, mais qui est fait de manière un petit peu dangereuse, selon nous, puisque il est là pour rappeler ce qui s'est passé il y a 80 ans. Très bien, c'est fait, maintenant on oublie, et à quoi on pense aujourd'hui et comment on avance aujourd'hui et comment on parle politique aujourd'hui, mais sans se référer à ce qui s'est passé il y a 80 ans. Et donc le fait de le rappeler et de faire cette incitation ou cette injonction à se rappeler tout le travail de lutte et d'injonction politique, parce qu'à l'époque effectivement c'était une réalité, puisque le gouvernement a joué son rôle de stimulateur politique pour mettre tout le monde autour de la table pour arriver à ces accords de Matignon qui ont donné lieu au congé payé. Dans ce cadre-là, il y avait une forte volonté politique. Aujourd'hui, je vais pas rentrer dans le débat et puis on peut peut-être pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, aujourd'hui, il est bon de se rappeler qu'il y a eu une lutte pendant très longtemps, qu'il y a eu des concertations, et que tout le monde était autour de la table, et que ça reste important, et que l'action des syndicats, elle a été extrêmement, elle a été cruciale à l'époque, et peut-être qu'elle serait cruciale aujourd'hui. Donc c'est effectivement peut-être indirectement par la bande faire remonter tous ces sujets qui peuvent être des sujets de débat et qui peuvent être aussi des sujets de réflexion aujourd'hui dans le cadre qu'on connaît et dans les luttes aussi qui persistent encore aujourd'hui.
Oui, parce que ce travail mémoriel, j'ai vraiment l'impression qu'il est au centre du projet. J'ai vu sur le site qu'il y avait même une bibliographie à laquelle se rapporter pour en savoir plus sur cette lutte qui a été menée en 36. Et en même temps, vous l'évoquiez à l'instant, le contexte, la conjoncture politique actuelle est quand même pas des plus plaisantes. Du coup, cette grande colo, elle a pas malgré tout un goût un peu amer avec l'adoption de la loi travail tout récemment.
Elle a effectivement été un petit peu dévoyée, je sais pas, mais en tout cas, elle a son aspect, sa face a légèrement changé au fil des mois et des événements.
Vous avez adapté le programme avec ce qui s'est passé?
Non. Il y a eu beaucoup de choses qui sont effectivement passées et qui nous ont donné un goût amer, mais qui nous ont fait persister dans l'idée de mettre en place cette saison. Elle s'appuie, dans tous les événements sur lesquels Petit Bain va être partenaire avec la Grande Colo, ou alors qu'on va initier, il y a des choses qui étaient de toute façon prévues de longue date. Et il faut quand même rappeler qu'il y a par exemple une exposition qui a eu lieu à l'Hôtel de Ville de Paris, avec un travail de recherche iconographique, de conservation assez fabuleux, qui nous parlait de toutes ces luttes et qui nous montrait tout ce qui se passait dans le monde à l'époque et qui avait une très forte connotation politique. Elle était évidemment prévue longtemps auparavant, avant tout ce dont on parle ou on ne veut pas parler. Mais en tout cas, c'est plutôt justement non pas un goût amer que ça nous laisse, mais une envie d'en dire encore plus et d'insister un peu plus sur le côté festif d'événements qui eux-mêmes vont avoir du fond et vont nous apporter peut-être un peu plus de réflexion.
Vous parliez on parlait de bibliographie, mais je crois qu'il y a aussi une filmographie. Il y a une programmation au Forum des images qui était consacrée au Front populaire et au printemps 1936. Est-ce que c'était en lien avec la Grande Colo ? Est-ce que vous avez aussi vocation à proposer des films, des projections et à montrer que ça passe aussi par le cinéma, puisque 36 et les années 30 étaient une période de grande inventivité cinématographique ?
Tout à fait. Le travail qui a été fait par le Forum des images et un travail... était à la fois nécessaire et puis était effectivement un travail essentiel. Donc ce cycle, c'était sur l'année 36 dans le monde. Mais ce cycle était ouvert par la projection de La Belle Équipe, un film de Duvivier de 1936, qui raconte, je ne vous raconte pas le film, mais qui en tout cas raconte l'histoire de gens qui enfin vont goûter au loisir et vont essayer... De faire vivre les espoirs déclenchés par le gouvernement du Front populaire. Ça s'inscrivait complètement dans la Grande Colo. La Grande Colo était partenaire du cycle, mais a surtout travaillé sur cet événement inaugural. Et puis, évidemment, ça nous donne envie de faire d'autres choses. Je crois que l'année n'est pas finie, et c'est pas parce que le gouvernement du Front populaire, le premier, a été élu en mai, début mai 1936, que ça ne s'est pas continué pendant quelques années. Effectivement, les dernières années du Front populaire ont été très compliquées. Néanmoins, l'année n'est pas terminée et 2016 reste la célébration des 80 ans.
On va être obligé d'abréger. Merci à les champions d'avoir été avec nous. On retrouve toutes les infos de la Grande Colo sur le site internet et la page Facebook.
Vous écoutez Radio Camping Paris sur le 93.9.
Pardon, je suis désolée. Tout de suite, c'est la chronique de Flore.
Et tout à fait. Alors moi aussi, comme la Grande Colo, j'ai pensé aux Parisiens qui sont encore à Paris pendant les grandes vacances et qui ont tout de même envie de se cultiver parce que l'été a mis beaucoup de temps à arriver, mais il est enfin là. Et pour tous les Parisiens qui seraient encore sur place et auraient soudainement envie de se réfugier dans les salles climatisées, comme du côté cinéma, le Festival de la Villette n'aura pas lieu et qu'au cinéma, il n'y a pas grand-chose à voir en ce moment, j'ai proposé quelques suggestions d'expositions. Alors on peut commencer par un incontournable, le Centre Georges Pompidou, où se trouvent actuellement deux expositions à ne pas manquer. D'abord, il y a celle de Mélie Kohanian à l'espace 315. Donc c'est ce tout petit espace, qui fait donc 315 mètres carrés, qui est juste à droite en tournant dans le centre. Dans le centre, Mélie Kohanian, c'est un artiste français qui a gagné cette année le prix Marcel Duchamp, qui est un des prix les plus prestigieux pour la création contemporaine, et qui présente là donc quelques œuvres dans une atmosphère assez obscure. Il y a des installations lumineuses et des photographies en noir et blanc. Et il y a quelque chose dans le travail de Mélie Kohanian qui travaille beaucoup sur l'écoulement du temps et la mémoire. Si vous avez envie d'une exposition un peu plus dense, mais toujours au Centre Pompidou, vous pouvez enchaîner avec la grande exposition sur la Beat Generation, dont le commissaire est Jean-Jacques Lebel. On y trouve évidemment des manuscrits inédits, des documents sonores, vidéos, des dessins de films, etc. Mais le but de l'exposition, c'est de montrer un peu comment la Beat Generation est un peu une forme de continuation américaine du surréalisme français et comment Ginsberg et Burroughs seraient par exemple les héritiers de gens comme Éluard ou comme Breton. Par contre, les grandes expositions sont à votre goût. Vous pouvez aussi aller à un autre incontournable de l'été qui est le Jeu de Paume. Et on reste dans la photographie puisqu'il y a une exposition sur le photographe slovaque Joseph Sudek. L'exposition s'appelle « Le monde à ma fenêtre » parce que Joseph Sudek a beaucoup photographié depuis la fenêtre de son atelier. Donc en fait, il a assez peu voyagé, il photographie beaucoup les rues de Prague. C'est un photographe qui a dans la carrière, c'est ça, entre les années 20 et les années 70. Donc en fait, c'est une photographie qui est très documentariste, qui permet beaucoup de comprendre ce qui a pu se passer dans son pays pendant toutes ces années, notamment dans les années 40 et pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Et il y a à la fois quelque chose d'une volonté très documentariste, très politique, et en même temps une volonté assez esthétisante de montrer des photographies joyeuses. Donc il y a beaucoup de choses à voir dans son travail, et je vous le conseille donc très vivement.
Du côté des musées, qu'est-ce qu'on pourra trouver ? Peut-être des choses un peu plus originales ?
Voilà, alors juste à côté du Centre Pompidou, il y a un musée qui est injustement méconnu, c'est celui de la chasse et de la nature. Il est vraiment juste à côté, je crois que c'est Rue Vieille du Temple. Son titre pourrait sembler rébarbatif, mais il faut savoir qu'on y trouve d'abord beaucoup d'art contemporain au détour des salles, où les artistes contemporains voisinent de manière assez impromptue avec les collections d'armes ou les trophées de chasse. Et d'ailleurs, dans la salle des trophées de chasse, essayez de repérer la tête du sanglier, elle va vous réserver quelques surprises. Et pour faire un petit contraste avec ce monde martial, rien de tel que le rose et les paillettes, n'est-ce pas ? Puisque se tient en septembre au Musée des Arts Décoratifs une exposition sur Barbie. Alors certes, on peut en vouloir à Mattel, mais voilà, l'exposition Barbie, je vous la conseille, et c'est fini. Mais tous les conseils d'exposition seront sur le site de Radio Campus Paris.
On les retrouvera. Merci Flore pour cette chronique. Radio Campus Paris, c'est terminé pour aujourd'hui. Il est temps de rendre à petit bain sa terrasse. Alors c'était ma première en tant que présentatrice. Je pense que ça s'est vu, ça a été un peu compliqué, mais on est arrivé au bout. Merci pour leur patience et leur indulgence à Elsa, à la coordination, Charlène, à la réalisation. Merci à tous les invités, à ma co-intervieweuse Anna. Merci à Flore et Quentin pour leur chronique incisive et pertinente. Le temps d'un week-end, Radio Campus Paris sera de retour lundi avec d'autres invités encore plus cool, d'autres surprises, d'autres événements. Ce n'est donc qu'un au revoir, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, mais restez branchés sur Radio Campus car tout de suite on retrouve Radio Pépin et leurs invités The Pirouettes.
Il est 20h.